Bah écoute, merci Avi de m'accueillir chez toi pour cette interview donc, de Un temps en train à Paris. Comme tu le sais, comme je te l'avais expliqué, en fait, moi ce qui m'intéresse, c'est d'aller à la rencontre de tantrika, d'animateurs tantra, de personnes qui ont cette ouverture de cœur pour simplement partager, en fait, échanger sur tantra, la manière dont ils y sont arrivés, comment ils le pratiquent, etc. Et donc par le biais de 5-6 questions, pas plus. Voilà. Donc ce que je te propose, c'est de démarrer par la première, hein, tant qu'à faire.
Allez.
Donc la première question qui est la plus rapide et la plus simple, c'est qui es-tu? Donc c'est-à-dire décliner ton identité et tes activités professionnelles.
Eh bien, je suis Avi Fedida. Avi, c'est un nom d'emprunt. Mon vrai nom, prénom, c'est Albert. Mais ça me va très bien d'avoir les deux. Ben, jusqu'à il y a une dizaine, une quinzaine d'années, je faisais de l'informatique. Et puis, ça m'a un peu gavé. Il a suffi d'un stage de tantra pour me dire que c'était ma voie. Et
Alors,
ça,
ce
je rentre
que
à
je te
peu.
propose, parce que là tu embrayes déjà sur la
Ouais.
deuxième question, c'est qu'on va clore déjà la première. Si tu peux juste me donner ton nom de famille et tes activités professionnelles actuelles.
Voilà, oui, ok. C'est vrai que je.
Tu anticipes.
Donc, Avi Fedida, ce que je fais en tant que profession, je fais que des choses que j'aime. Je fais des groupes de tantra, des groupes de méditation passive, des groupes de méditation active, des groupes de respiration rebirth, de type rebirth. Je reçois des gens en séance individuelle. J'ai aussi des ateliers de peinture créative où je fais peindre les gens sur des petits morceaux de bois qu'on assemble ensuite dans des grandes fleurs mandala, comme celle qui est dans mon jardin.
Ah oui, je la vois, elle est absolument magnifique.
Voilà. Et puis je dirige un site qui s'appelle êtreplus.fr qui rassemble tout ce qui tourne autour du développement personnel, hein, que je dirige et je modère aussi parce qu'il y a une charte qui dit qu'il n'y a pas de publicité, autopromotion par exemple, dans le site dont je le gère entièrement tout seul.
D'accord, ça fait beaucoup d'activités. Par rapport à ces activités, où est-ce que tu pratiques?
Alors j'ai deux lieux pour pratiquer, un qui est central qui s'appelle le Centre Iris, près du métro Alexandre Dumas, à Paris, Paris 20e, et l'autre, bah, c'est chez moi, parce que j'ai choisi de louer un grand loft, au lieu de louer des salles épisodiquement, j'ai décidé d'habiter dans la salle de stage. Mais pour l'initiation ou des choses ponctuelles, j'utilise quand même une salle sur Paris.
D'accord, on peut préciser que ce lieu de vie, cette salle où tu reçois des gens, c'est à Romainville,
Oui,
hein, en
c'est à
banlieue est de
Romainville,
Paris.
voilà, en banlieue est, le métro le plus proche, c'est Mairie des Lilas.
Ok. Bon, ben, ce que je te propose, c'est qu'on poursuive et qu'on reprenne en fait le fil là où je t'ai arrêté sur, qu'est-ce qui t'a amené en fait à Tantra.
Alors, il semblerait que ça soit une énorme synchronicité de l'univers. Voilà, où maintenant je dis c'est le hasard avec un H majuscule pour faire un clin d'œil à tout le tapis rouge qui m'a été offert. Après 7 ans de thérapie avec ma thérapeute, j'ai participé à un stage où elle co-animait avec une animatrice de tantra. Et donc, il y a eu un stage qui était du tantra sans le dire réellement, c'était la relation homme-femme. Lorsque ce stage, qui a duré une année entière avec les mêmes participants, plusieurs week-ends, s'est terminé, cette animatrice qui s'appelait Chandana a annoncé au groupe que ceux qui voulaient continuer la même énergie, elle démarrait un groupe de tantra en juillet. Près de Lyon. Donc, c'est une animatrice qui a beaucoup animé avec Soudhir Roche. J'ai tout de suite dit oui. J'ai tout de suite dit oui. Donc ce stage à Ruffieux, dans l'Ain, un lieu assez beau et qui est devenu presque mythique hein, pour le Tantra, parce qu'il accueille beaucoup de stages différents.
Donc il existe encore en fait.
Ouais, il existe encore. Alors, ce premier stage de Tantra a été un rendez-vous extraordinaire. D'abord, le groupe, c'était 24 personnes, bien sûr 12 hommes et 12 femmes, puisque dans le Tantra, il y a la parité, mais aussi 6 couples et 12 célibataires, donc une symétrie dans tous les sens. Le nombre 24 est très aussi énergétique, très beau. Mais le principal, c'est que je suis arrivé avec une question dans ce stage, une question qui était très naïve. C'était comment séduire les femmes. Parce que je n'étais pas, entre guillemets, commercial pour deux sous. Et j'étais très démuni en face d'une femme qui me plaisait pour la séduire. Ce qui s'est passé, il s'est passé beaucoup de choses dans ce stage, mais ce qui était intéressant à noter, c'est que je suis sorti du stage, je n'avais pas la réponse à ma question, mais je n'avais plus la question.
Ah.
Et donc, c'est très symptomatique de comment le Tantra fonctionne. Hein. Il y a eu une sorte de grand bouleversement en moi, de grande clarification, qui a fait que la question n'était plus pertinente. Tout simplement, je n'avais plus besoin de me la poser. En fait, séduire, ça répondait simplement au besoin d'être reconnu, et puis ce besoin-là. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai demandé à une femme si elle voulait bien faire l'exercice avec moi. C'était un des premiers exercices. Elle a dit non. Eh bien, à ma grande surprise, alors que précédemment ça aurait été une catastrophe, ce non-là ne m'a pas ébranlé. Je suis allé en voir une autre et elle m'a dit oui. J'ai fait l'exercice avec une autre. Et juste un tout petit peu après, c'est un peu flou parce que c'est comme si tout était allé au ralenti, j'ai vécu une énorme extase, une expansion de conscience qui m'a fait penser à l'intérieur, tout est possible. Je me suis senti avec une félicité, un bonheur intérieur incroyable et je me sentais sans aucune limite. Et ça a duré 3 mois. 3 mois
ah oui,
de bonheur très fort. Je me sentais tout puissant aussi. Et puis, ma relation avec les femmes a changé du tout au tout. D'où l'absence de réponse à cette question. Voilà, c'était un grand tapis rouge pour le Tantra que l'univers m'a déroulé. Moi, j'ai interprété ça comme... tu veux savoir ce que c'est que le Tantra, tiens, voilà un aperçu. C'est vraiment un aperçu. Hein. Et maintenant que tu as goûté, va l'enseigner. C'était ça ce que j'ai retenu de ce premier stage. Et j'ai commencé très rapidement à faire des stages, même s'ils n'étaient pas payants. J'ai rassemblé des personnes autour du Tantra.
Alors, est-ce que, pour résumer par rapport à la question, qu'est-ce qui t'a amené à Tantra, ce serait deux choses, c'est-à-dire la première, déjà, ce premier stage d'un an, donc avec une animatrice qui est une animatrice tantrica et pour autant qui n'était pas qui n'était pas précisée dans l'intitulé par rapport à sa fonction et par rapport au stage. Et la deuxième, c'est cette question que tu te posais, comment séduire les femmes. Est-ce que ça résume bien en fait, ou ça répond à cette question? Qu'est-ce qui t'a amené au Tantra?
Alors, d'une certaine manière, oui, parce que tout ce que j'ai fait en thérapie, j'ai fait aussi du rebirth pendant la thérapie, et j'ai eu l'impression, pendant ces 7 années, d'avoir monté des marches en termes d'évolution de conscience.
Ouais,
jusqu'à un niveau où, dans ce premier stage de Tantra, il y a eu quelque chose qui a basculé. C'est pour moi, il y a un endroit où j'étais prêt. Hein, où ce rendez-vous s'est préparé pendant 7 ans. Hein. Et je me rappelle que ce stage qui a duré un an, la relation homme-femme, je me sentais extrêmement coincé. Hein. Ce n'était pas du tout le même ressenti que que ce qui est arrivé tout de suite au début du stage,
tantra,
qui est après, ouais, spécifiquement tantra. Donc l'univers me préparait, c'est ouais, ce que moi j'interprète, plonger dans la grande... Parfois je dis aux gens qui ne me connaissent pas, je suis comme Obélix, je suis tombé dans la marmite de potions magiques. Et voilà, j'ai commencé directement après à faire... Je ne me suis pas formé, je n'ai rien fait. J'ai su que c'était ma voie, mais j'ai senti que j'avais ouvert un coffre avec des diamants, des rubis, des pièces d'or, et que j'avais qu'une envie, c'est de partager ces trésors. Mmh.
D'accord, ok. Alors je te propose de nous diriger vers la question suivante, qui est, comment as-tu rencontré Tantra? Alors, pour moi, tu as déjà donné des réponses, dans le sens où tu as participé à un stage d'un an. Comment ça s'est poursuivi par la suite? Est-ce qu'il y a eu des lectures qui t'ont inspiré? Est-ce qu'il y a eu d'autres rencontres qui t'ont inspiré par des tantricas, des animateurs tantriques? Ou est-ce que non, tu t'es senti guidé? Comment ça s'est passé, en fait?
Alors, j'ai continué à pratiquer cette femme, Chandana, et puis avec d'autres co-animateurs, à organiser toute une série de rencontres dans l'année qui s'appelait Mouvement de Relation. C'était axé autour de la relation, mais avec une composante de tantra qui était clairement dite, exprimée. Je me sentais comme un poisson dans l'eau, dans ces stages, à tel point que la Chandana, l'animatrice, me disait que j'étais son organisme de publicité, j'étais son porte-parole, pratiquement. À un certain moment, elle est venue chez moi, j'habitais à Cergy, pour animer une soirée tantra sur place. Donc j'ai continué à baigner dans ce bain pendant un bon nombre de mois, au moins 2 ou 3 années, avec des stages. Et puis je me suis rendu compte que les stages... si je voulais en faire beaucoup, ben ça impliquait au niveau finance beaucoup d'argent. Ouais. Et j'ai eu l'idée d'organiser des stages autogérés, dans lesquels, destinés seulement aux tantricas qui avaient déjà pratiqué, qui voulaient pratiquer à moindre frais, et dans lesquels l'animation était tournante, c'est-à-dire que n'importe qui pouvait proposer un exercice. Il n'y avait pas d'animateur à proprement parler. Et on louait le lieu ensemble, et il n'y avait pas de coût pour l'animation. C'était le coût de l'hébergement qu'on se partageait.
Et de la nourriture, quoi.
Voilà, la nourriture et l'hébergement étaient co-gérés. Donc j'étais quand même le fil directeur, celui qui impulse ça, sans être l'animateur. On a fonctionné en Normandie pendant au moins 2 ans, comme ça. Et après... suffisamment de pratiques, m'est venue l'intuition de dire j'ai envie de me mettre au service du tantra, pas seulement pour ceux qui connaissent déjà, mais pour ceux qui veulent découvrir. Et là, j'ai commencé à organiser des stages payants, des stages de découverte, des stages d'entretien des acquis. Donc, c'est quelque chose qui m'est venu progressivement. Et en même temps, j'ai progressivement lâché mon activité d'informatique pour me centrer de plus en plus sur les choses que j'avais vraiment choisi de faire. En premier le tantra, et puis la méditation est venue après. Et donc j'ai lâché du lest au fur et à mesure des années pour faire seulement des choses qui me rendaient heureux.
D'accord. Est-ce qu'il y a eu d'autres rencontres ou des lectures sur ton parcours de tantrika qui t'ont permis, j'ai envie de dire, de nouvelles explorations, qui t'ont conforté dans l'idée que oui, comme tu le disais, tu te sentais comme un poisson dans l'eau dans les stages organisés par cette animatrice. Et à la lecture ou à la rencontre d'autres personnes qui, on va dire, étaient déjà bien implantées ou bien dans le milieu depuis des années, tu t'es dit, mais oui, enfin, y a même plus aucun doute, là, je suis sur ma voie, quoi.
C'est exactement ce que tu viens de dire. C'est vraiment pratiquement mot pour mot. Comme j'ai démarré très rapidement, à un moment, je me suis posé la question, mais est-ce que c'est bien le tantra que j'enseigne? Et donc, je me suis dit, ben, je vais faire une formation et je choisis tout naturellement Soudhir Roch. Parce que, après avoir quand même résisté pendant plusieurs années, je le trouvais assez froid d'abord.
Le personnage, hein, tu veux dire.
Le personnage, je ne le trouvais pas très expressif. Bon, il a un passé dans les. Il avait, parce qu'il est, décédé depuis peu, il avait un passé dans les jésuites qui après. Et après un an ou deux d'hésitation, je me suis dit, tout ça c'est que du mental, je ne pourrais pas savoir ce qui peut m'apporter avant d'avoir participé vraiment à quelque chose avec lui. Et je me suis dit, ben, je vais m'inscrire à la formation personnelle et au moins je saurai si je me la raconte complètement ou si ce que je fais c'est vraiment inspiré du tantra. Donc j'ai fait ça, c'était très agréable, très conforme à ce que je vivais. J'ai vraiment rien appris, mais ça m'a levé un doute sur est-ce que c'est bien le tantra que j'enseigne ou est-ce que c'est ma sauce que je donne. Donc Soudhir Roch, ça a été la rencontre la plus marquante pour moi. Je ne regrette pas du tout d'être allé le voir. C'était une formation qui a duré une semaine, je crois. Au niveau des livres, on parle beaucoup d'Osho, hein, oui. Dans le Tantra, qui a écrit ou qui a fait retranscrire plutôt 700 ouvrages. Quelqu'un m'a donné un livre, parce qu'il déménageait, il n'en voulait plus. C'était un livre qui est épuisé actuellement. Le Osho, Tantra, 2. Le chant royal de Saraha. C'est comme Sahara, mais avec le H et le R inversé. Saraha. J'ai ouvert ce livre. J'ai lu 2 pages, je l'ai refermé et j'ai dit, ça je sais, ça je connais, ça c'est vrai. C'est-à-dire qu'il a résonné profondément en moi et je n'ai pas senti de le lire complètement parce que ça correspondait ce qui était dit dans ces 2-3 premières pages. C'était 100% de ce que je ressentais à propos du tantra et je me suis dit, merci Osho de m'avoir confirmer que ce que je sens, c'est bien ça. Hein, et je n'ai pas senti le besoin d'en lire d'autres, même si pour l'histoire, bah, j'en ai acheté un, le livre des secrets, et puis j'ai lu complètement le chant royal de Sarah par la suite. Mais par curiosité intellectuelle et pour en savoir davantage sur Osho lui-même, mais ce n'était pas... J'ai rien appris réellement, hein. J'ai pas ressenti le besoin d'approfondir des lectures. Donc, oui.
C'était pas, on va dire, une grande découverte. En tous les cas, ce ne sont pas des sources principales ou supplémentaires par rapport à ce que tu vis. Cette connaissance-là, en fait, tu l'acquiers d'une autre manière, ou tu l'as acquis d'une autre manière, en fait. Est-ce qu'on peut dire ça ?
On peut dire ça, d'autant que Chandana et Soudhir Roch ont travaillé longtemps dans l'ashram d'Osho.
D'accord.
Et donc, ils portaient en eux l'énergie d'Osho. Et donc, d'une certaine manière, j'ai bénéficié, comme par filiation, j'ai bénéficié de l'enseignement d'Osho à travers eux, parce que l'enseignement d'Osho est assez particulier. L'homme était très provocateur. Soudhir Roch, je l'ai trouvé aussi très provocateur, mais moi, j'appelle ça de la provocation amoureuse. C'est-à-dire, je provoque pour susciter un bouleversement positif en toi. Hein, donc, ce n'est pas pour nuire à la personne. Chandana, elle, avait été très joyeuse dans l'énergie du tantra, avec du ludique. J'aimais beaucoup, c'est une femme assez jeune, hein, et j'aimais beaucoup le vivant qu'elle incarnait. Donc, d'une certaine manière... j'ai reçu tout l'enseignement d'Osho en énergie, je pourrais dire, à travers eux. Et... Alors après, j'ai souhaité aller dans l'ashram d'Osho, ce que j'ai fait. Chandana m'a dit, vas-y pour le tourisme. Osho était déjà décédé. Mais franchement, il n'y a rien à y trouver de particulier. C'est comme une vaste usine de développement personnel, ce que je confirme. Et puis j'ai vécu une grande déprime là-bas, un peu inexpliquée. J'étais très content de rentrer, il y a eu des choses bizarres qui se sont passées. mais ça m'a vraiment, à part le seul moment de recentrage que j'ai trouvé là-bas, c'était 2000 personnes dans ce qu'ils appelaient le Buddha Hall, donc une énorme salle, et avec un discours d'Osho retransmis sur écran géant. Et là, je retrouvais l'énergie d'Osho et j'étais tranquille. Mais dans le reste du temps, je ne supportais pas les gens qui se prenaient dans les bras. Je me suis complètement renfermé dans ma bulle. Mais enfin, ça, c'est mon histoire. Ça m'appartient. J'avais l'impression d'être dans une secte et je me suis protégé.
D'accord. C'est comme si, en fait, le lieu était resté, mais vidé de cette substance vitale que Osho nourrissait quelque part. Est-ce que c'est un peu comme ça qu'on peut le comprendre ?
C'est un peu comme ça, d'autant plus que je voyais des choses un peu choquantes pour moi. Il y avait une Rolls brillante, astiquée, sur du marbre brillant, qui était là, alors qu'il y avait de la misère à 300 mètres de là, des bidonvilles. L'ashram était un lieu très vert, une oasis de verdure. Et on demandait un test de sida avant de pouvoir entrer. L'eau était absolument stérilisée. C'était comme une bulle dans un océan de pauvreté et de multitude. Cela dit, ben, j'ai rien contre les oasis et contre l'eau filtrée. On nous demandait de nous habiller avec une robe, que tout le monde avait la même, une robe pourpre la journée, une robe blanche le soir. Et je me suis senti un peu rebelle avec cette conformité. Cette expérience ne m'a pas apporté quoi que ce soit. Hein. Je dirais, je l'ai faite par curiosité intellectuelle, mais je ne la recommande pas à qui que ce soit. Je dirais.
D'accord. Bien. De quelle manière est-ce que tu pratiques Tantra aujourd'hui, toi personnellement ?
Alors moi personnellement, j'accorde une place plus importante à la méditation et au recentrage, hein, même si ce n'est pas directement des pratiques de Tantra. Hein. Je dirais que pour moi, un moment... au début de la journée, avec quelques respirations, avant de faire quoi que ce soit d'autre, avant même de me lever de mon lit, c'est pour moi démarrer la journée avec du bon pied, hein, avec une énergie qui est beaucoup plus dans la présence. Pour une raison que j'ignore, il y a un moment dans ma vie où je me suis levé un matin avec une très forte vibration dans le cœur. Et cette vibration, elle était extrêmement sensible, comme si c'était un courant électrique. Et elle est restée très longtemps. Et même des années après, et même aujourd'hui, je sens mon corps et mon cœur vibrer quand je fais silence. Donc ça vibre beaucoup le matin. C'est pour ça que je m'arrête le matin. Dès le lever, j'écoute ça. Et je fais mes pratiques de méditation le matin. Je le fais aussi le soir, juste avant de me coucher, pour clore la journée qui s'est terminée. Je dirais, c'est pas du tantra comme je le fais pratiquer dans mes stages, mais ce sont des pratiques de recentrage, hein, que je fais pour moi. Mais en même temps, comme pour moi le tantra c'est l'expansion de la conscience avant tout le reste, toute pratique qui vise à favoriser l'expansion de la conscience, c'est dans l'énergie du tantra. C'est, tout le reste ne sont que des moyens qui favorisent ça. Hein, on peut utiliser des tas de moyens différents.
Et alors, les tiens, personnellement, ceux que tu pratiques, tu m'as parlé de la méditation, même si elle n'est pas forcément tantrique, on va dire, hein, il y a beaucoup de formes de méditation. Est-ce que justement, tu pratiques une méditation tantrique particulière en plus des méditations matinales dont tu viens de parler, est-ce que tu pratiques par exemple le massage ? Est-ce qu'il y a d'autres pratiques ? Simplement le fait de se poser 5 minutes, de s'écouter, voilà, qu'est-ce qui...
Non, je ne pratique rien de particulier dans la journée. Je propose en séance individuelle des massages énergétiques, mais ça c'est sur demande. Pour moi, le tantra m'a amené lentement vers la non-dualité. Parce que le tantra est une pratique non-duelle. Si on va plus loin que le massage ou les exercices énergétiques homme-femme, la non-dualité, c'est pour moi être conscient de chaque jugement que je porte et puis le reformuler, le corriger, être conscient, être de plus en plus conscient quand je dis quelque chose de pas aligné, de pas juste, je viens le corriger pour ne pas laisser une marque énergétique derrière moi ou une blessure chez quelqu'un. Donc ma pratique du tantra, je dirais, c'est la pratique de la conscience au quotidien. Je suis conscient de ce que je dis, de ce que je fais, de mes engagements, d'être à l'heure. Tout ça, c'est une sorte d'alignement, non seulement que je veille à pratiquer moi-même, mais que je veille à véhiculer dans les différents groupes. Tout ce que je fais, que ce soit tantra ou pas, s'inspire de faire grandir l'espace de la conscience.
Je pourrais le retranscrire de la manière suivante, c'est-à-dire que tu cherches, peut-être même que tu y réussis, et là je dis bravo, à être en conscience 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, du moins dans les temps où tu ne dors pas, par rapport à tout ce que tu vis. Donc être à l'écoute de tes besoins, de tes envies, quelles qu'elles soient, comme tu l'as précédemment exprimé, si tu as quelque chose à exprimer, de faire en sorte que ce soit la manière la plus juste. Si tu sens que ça ne l'est pas, de corriger derrière, est-ce que ça retranscrit ce que j'ai entendu ?
Oui, tout à fait, tout à fait.
Sans qu'il y ait de pratique particulière, en fait.
Voilà, je ne dis pas que je suis conscient 24 heures sur 24, parce que sinon je serais un être éveillé, j'aurais dissous mon ego, ce qui n'est pas le cas. Moi, je dirais que je suis un être ordinaire. Je ne suis pas différent de toi, je ne suis pas différent de quelqu'un d'autre. J'ai une certaine expérience de la vie qui m'a amené à affiner mon espace de conscience. Mais parfois, je suis aux prises avec une envie de pouvoir. Parfois, je suis aux prises avec le sexe. Parfois, je suis aux prises avec des choses de jugement. Ce qui fait la différence pour moi, c'est que j'amène la conscience le plus rapidement possible sur ces déviations, sur ces dérapages, et je me remets au centre de moi-même en me disant « Avi, tu veux le bonheur, c'est pas comme ça. » Et puis j'observe les manigances, les stratégies de mon ego, et puis je reconnais très vite que ça ne me représente pas en termes de qui je suis vraiment. Voilà, donc pour moi, le tantra, c'est faire la différence entre l'être conscient qui a un tracé de vie, qui va vers une évolution de plus en plus grande, vers une conscience de plus en plus grande, sans être forcément total, et puis le petit moi jacasseur qui, à l'intérieur, voudrait prendre le pouvoir, voudrait séduire, voudrait être reconnu, qui, même s'il existe encore chez moi, est plus lointain qu'avant et plus parfois à l'état de trace. Et donc j'ai eu des blessures dans la petite enfance. Pour moi, elles sont comme des vieilles cicatrices qui me font plus réagir, mais je sens qu'elles sont toujours présentes à l'état de trace, elles ne disparaissent pas, mais elles sont plus prégnantes dans ma vie.
Ok, et donc là, moi, tu as répondu à la question de quelle manière toi tu pratiques. De quelle manière est-ce que tu fais pratiquer les personnes que tu accompagnes ? Quelle pratique tu vas leur proposer en fait pour découvrir ton tantra ?
Alors, il y a plusieurs niveaux. Je fais des groupes de découverte et d'initiation. Alors, c'est pratiquement le même niveau. La découverte, c'est je suis un béotien total. J'ai envie de savoir ce que c'est. Dans les pratiques de découverte, je n'inclus pas volontairement l'énergie sexuelle. D'accord. Parce que je considère que c'est un gros paquet pour la plupart des gens, c'est un gros paquet de peur et de conditionnement, et que ça s'aborde lorsque le reste est plus détendu. Donc c'est un choix, c'est pas, le tantra ne dit pas tout sauf le sexe, hein, le tantra...
L'inverse d'ailleurs. Hein.
Voilà, oui, enfin, l'inverse c'est plutôt louche, hein, pour moi. Si on commence par l'énergie sexuelle, c'est plutôt louche. Donc la découverte, c'est des pratiques plutôt douces, on se regarde dans les yeux, on se bande les yeux et puis on va rencontrer... seulement les doigts des autres, c'est plus énergétique qu'autre chose. On danse en sentant le sol sous les pieds, et puis ensuite on va rester avec cette énergie d'ancrage le plus longtemps possible. Donc c'est ramener les gens dans leur corps, dans une conscience corporelle, pour recentrer l'énergie. Hein, parce que lorsqu'il y a beaucoup de mental, bah, le corps n'est pas vraiment très habité. Donc ça sert à kidnapper, j'appelle ça, l'énergie du mental pour la mobiliser dans le corps. Je mets des percussions et je leur dis « allez-y totalement ». Des choses comme ça. Après, il y a des groupes un peu plus impliquants, des journées complètes ou des après-midi ou des week-ends qui se passent ici ou sur Paris, où là, il y a un petit peu plus de prise de risque. L'idée première, et c'est ce que je leur dis, hein, c'est de déconditionner le mental et puis de cultiver une liberté intérieure plus grande que dans le contexte social. Sortir de ce qu'on m'a dit, de ce qu'on m'a prêché, de ce qu'on m'a enseigné, qui ne me ressemble pas. Hein, et de penser en termes d'égoïsme positif. Et moi, alors, hein, ou alors, moi d'abord. Quand je suis, par exemple, en manque d'estime pour moi-même, quand je suis déséquilibré dans l'image que j'ai de moi, j'ai besoin de recevoir. Avant de donner quoi que ce soit, j'ai besoin de recevoir. Et donc, cet égoïsme positif, il va dire, je m'abreuve de tout ce que le tantra peut m'offrir. Il y a plein de cadeaux qu'on peut recevoir dans des exercices de par deux. Des choses qui nourrissent ces choses qui peuvent être en manque à l'intérieur. Lorsque le niveau d'estime, le niveau d'énergie augmente parce que je me suis offert des choses qui sont bonnes pour moi, à ce moment-là, ça déborde. Hein, ça déborde et je peux aider tous ceux qui sont autour de moi, mais indirectement. Donc, c'est ce que moi j'appelle l'égoïsme positif. Si je suis à sec, je ne peux pas abreuver qui que ce soit, si mon puits est à sec. Donc je m'occupe de remplir mon puits, et lorsque ça déborde, quelqu'un qui est libre va naturellement influencer des centaines de personnes autour de lui sans faire quoi que ce soit.
Juste par sa présence.
Voilà, en rayonnant qui il est. Et c'est une phrase que j'ai entendue, la seule manière d'aider quelqu'un, c'est de rayonner qui vous êtes, hein, de rayonner l'être libre que vous êtes. Donc ça c'est ce que j'enseigne. Et en même temps, dans les stages un peu plus avancés, je dis aux personnes, sortez de votre zone de confort, parce que si vous voulez un peu de liberté en plus, elle est là. Elle est dans votre inconfort, dans la zone où vous vous sentez dans le risque. Parce que dans la zone de confort, c'est sécure, hein, c'est tranquille. Et donc, je donne un cadre qui dit il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'enjeu avec l'autre, ne forcez personne, ne vous forcez pas. Et le cadre a un seul but, assurer une relative sécurité pour que je puisse, en tant que participant, prendre un risque plus grand. Et qui dit risque, assumé, dit aussi potentiel de bénéfice. Hein, risque et bénéfice sont ensemble dans le tantra. Donc, si je reste dans ma zone de confort tout le temps, je vais ressortir aussi conditionné que j'étais entré, ou aussi peu libre que j'étais entré, parce que je suis resté dans une zone où le mental contrôle sans arrêt. Si je suis sorti de cette zone de confort en allant voir une femme alors que j'ai peur d'aller la voir pour lui proposer de faire l'exercice avec moi, à ce moment-là, j'assume une part d'initiative qui est associée à une liberté. J'ai peur d'y aller, mais j'ose y aller. Et les deux sont ensemble. Je ne laisse pas la peur sur mon coussin quand je me lève pour aller voir cette femme. J'y vais avec la peur, je la prends par la main et nous y allons ensemble. Et ce fait-là, le fait d'assumer sa peur, c'est une partie de la transformation qui me permet d'oser. Voilà, les pratiques, j'en ai une très grande variété. Il y a quelque chose de nouveau qui se passe récemment, je dirais depuis vraiment 3-4 mois, c'est que je ne pioche plus spécifiquement dans mon grand éventail d'exercices. Je m'assois avec un carnet et un crayon sur ce canapé. Je ferme les yeux et je pose la question à haute voix, qu'est-ce que je pourrais leur proposer dans ce stage ? Et je commence à prendre note et les intuitions arrivent, mais parfois j'arrive à peine à noter. Parfois il y a beaucoup trop d'exercices pour tenir même dans un week-end complet. J'avais un fonctionnement un petit peu intuitif, mais aujourd'hui, en posant la question, en me référant à mon soi supérieur, j'ai des réponses extrêmement pertinentes pour le tantra et ludiques, joyeuses, et ça ne me met plus du tout dans une tension de « est-ce que je vais proposer ça ?» ou « ça, je l'ai déjà proposé ». Je m'en réfère complètement à ce qui vient. Et je dois dire, je trouve une grande décontraction à faire ça. Et puis, c'est un côté intuitif, médiumnique, que j'ai plaisir aussi à développer.
Oui, je comprends. Et puis, quelque part, pour moi, ça va dans le sens de ce que tu disais auparavant par rapport à sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire, ok, je laisse venir ce qui doit venir, et si ça vient, c'est que c'est juste. Donc, quelque part, je m'octroie cette liberté-là aussi. Je m'autorise à aller à écouter ce qui vient. J'imagine que tu le fais quelques jours avant le stage, parce que bon, tu pourrais peut-être presque le faire le matin même ou le jour du stage, mais en termes de logistique, ça doit être beaucoup plus compliqué. Et est-ce que tu te rends compte peut-être que les exercices que tu vas proposer sont en phase totale avec l'énergie du groupe, parce que ça c'est aussi important, je pense, non, quand on anime.
Oui, j'ai toute une flopée d'exercices qui m'arrivent. Je le fais la veille pour des questions de logistique, parce qu'après, je mets tout ça par écrit. Mais ça ne change rien à l'énergie. Hein. Je dis aux personnes du stage que je le fais de cette manière. Je leur dis, si jamais ça ne vous plaît pas, vous vous adressez là-haut, parce que ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui ai, moi en tant que personne, hein, qui ai...
l'instigateur premier de
voilà qui est produit
ce programme, en fait.
Produit ces exercices, mais moi j'ai à cœur de d'écouter l'énergie du groupe et il m'arrive souvent de dire ça non, c'est plus adapté à l'énergie de maintenant, je vais changer l'ordre, je vais mettre autre chose que je sens plus adapté parce que le groupe évolue sans arrêt en termes d'énergie et de liberté, et des choses qui sont valables en début de groupe peuvent ne plus du tout être valables à la fin, parce que c'est déjà fait.
Donc si j'entends bien, tu restes vraiment à l'écoute de l'énergie du groupe, et tu t'adaptes en fait en fonction d'eux, parce que, enfin, je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est la meilleure manière de l'accompagner, plutôt que de rester dans quelque chose, entre guillemets, figé, bah, qui va pas leur permettre d'accéder à une autre forme de liberté.
Oui, oui. Totalement, je dirais, je suis totalement en recherche d'être en phase avec l'énergie du groupe au niveau des exercices. Parfois, je vais dire, tiens, maintenant je sens qu'il y a besoin d'un espace de parole alors qu'il n'était pas prévu, eh bien je change. Je dirais que ce que j'ai sur ma petite feuille, c'est un synopsis, hein, et c'est voilà, un squelette, une trame, et... c'est sujet à variation, à annulation, sans arrêt. Il y a des choses qui sont prévues, qui ne se déroulent pas, parce que soit il n'y a plus le temps, parfois le temps, s'il y a besoin de plus de temps, bah, j'autorise que l'exercice déborde sur le suivant, quitte à annuler le suivant. Pour moi, c'est pas le temps n'a pas d'importance, hein, c'est l'énergie qui a une importance.
D'accord. Ok. Avant-dernière question, parce que le temps tourne quand même. antépénultième même, je dirais. Quels sont les bienfaits que Tantra t'a apporté, donc vis-à-vis de ta propre personne, et par rapport au groupe ou aux personnes que tu accompagnes, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu perçois comme bienfait pour ces personnes? Peut-être que ce sont les mêmes, peut-être pas, je ne sais pas, je te laisserai pas.
Alors le premier bienfait, c'est cette belle extase dont j'ai parlé, qui a imprégné ma vie, je dirais, profondément. Souvent on me pose la question, et pourquoi ça s'est arrêté au bout de 3 mois, hein? Et j'ai entendu souvent des témoignages de cas similaires, pas forcément dans le tantra, mais l'univers donne une sorte d'aperçu.
D'accord.
D'aperçu de l'énergie. Et moi, j'ai appelé ça, à ce moment-là, j'ai appelé ça l'apéritif.
Ouais.
Hein,
ouais.
C'est l'apéritif qui donne envie de continuer.
Il y a une sorte de teasing, en fait, d'appel qui dit, mais vas-y, goûte à ça, puis
c'est
ça donnera envie d'y aller encore plus.
C'est ça, exactement. Et donc, il n'y avait pas besoin que ça perdure. Je l'avais goûté, je savais quel goût ça avait, je savais quelle couleur ça avait, je savais les bienfaits, parce que pendant des mois, j'avais en tête tout est possible, sans aucune limite. J'avais ça en tête. Et c'est des mots qui peuvent sembler énormes, et ils sont énormes. Mais en termes de notre soi supérieur, c'est vraiment le cas. C'est vraiment le cas. Quand je pense à quelque chose en tant que soi supérieur, je le manifeste immédiatement. Il n'y a rien qui ne soit impossible. Donc j'ai peut-être incarné un petit peu plus un rapprochement avec mon âme ou avec mon soi supérieur à ce moment-là, parce que j'étais complètement habité. Alors, il n'y a pas photo. Il y a un avant cette extase et un après. Clairement, il y a eu une bascule. Je disais tout à l'heure, j'ai gravi pendant 7 ans des marches et au premier stage de Tantra, j'ai basculé complètement dans un autre univers. Et il y a quelque chose que je n'ai pas encore dit, c'est que cette extase m'a fait basculer dans le féminin sacré à l'intérieur de moi. Alors que j'étais informaticien et que pour moi, il y avait oui ou non, mais rien entre les deux, parce que c'était binaire total, il n'y avait pas de à moitié. J'ai découvert le oui, le non, le non pas comme ça, le non pas si vite, et une infinité de nuances de peut-être. Hein, et j'ai découvert la nuance. Et je suis devenu du jour au lendemain sensible à la musique classique, alors que je détestais la musique classique, sensible aux bâtiments et à l'architecture, alors que je détestais ça. Donc il y a mon féminin intérieur qui s'est révélé à moi d'une manière tout à fait subite, hein, du jour au lendemain, et j'ai découvert une sensibilité extraordinaire. Et tout d'un coup, je savais parler aux femmes, mais alors dans un langage féminin. Je savais parler leur langage. Et c'était ça ma question d'avant.
Ouais.
Comment les séduire? C'était le masculin qui posait cette question. Et donc, c'était pas avec le masculin qu'il fallait y répondre, c'était en incarnant ce féminin. L'image que j'ai eue, c'est j'habitais dans un grand appartement intérieur, et il y a une pièce avec un grand rideau que j'ai jamais visité. Et ce jour-là, j'ai tiré le rideau, c'était une pièce merveilleuse, avec des rubis, des diamants, des tentures, des couleurs, des parfums.
Est-ce qu'on peut dire, est-ce que tu savais que cette pièce existait ou pas?
Non.
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 En plus, tu as découvert l'existence de cette pièce et tu as tiré le rideau et là, ça a été...
C'est ça. C'est une image, parce que ce que j'ai découvert, c'est ma sensibilité. Et j'ai découvert le féminin qui était déjà en moi, mais qui s'est révélé ce jour-là. Et ça me parle bien du tantra, parce que on parle d'union mystique entre masculin sacré et féminin sacré. Ce jour-là, je me suis senti complet, parce que le yang était complètement bien aligné, le yin est venu se rajouter, et c'est là que tout a été possible pour moi, parce que j'ai été complet. Donc, ma vie a changé, je me suis senti infiniment plus libre. le même été, j'étais en relation avec plusieurs femmes avec une facilité déconcertante. J'avais envie de 10 relations en même temps, comme si l'ado que j'avais été extrêmement timide voulait se rattraper ou voir que maintenant c'était possible.
Et puis goûter aussi.
Voilà. Donc, ma vie a totalement changé, mon rapport avec ma famille a totalement changé. Je dirais, j'ai vécu un miracle hein, en termes de comment se passe mon existence, comment elle était avant et comment elle était après. L'extase, c'est le point de jonction entre les deux vies. Hein, mais qui n'ont... C'est comme si j'étais né à nouveau, parce que je ne me reconnais plus du tout dans qui j'étais avant, plus du tout. Je raisonnais complètement différemment et je n'avais pas du tout la même psychologie, non plus la même liberté. J'étais plus du tout timide alors que je ne regardais pas les gens dans les yeux. Voilà, c'est des choses qui ont... Donc, quel changement ? Moi, je dirais tout a changé, absolument tout. Alors, la deuxième partie de la question...
En termes de posture, tout ça, quoi.
Tout, oui, vraiment tout. Je ne peux pas dire autrement. C'est ma psychologie, c'est mon attitude intérieure qui a changé. Mais ça a eu un impact sur tout le reste. Sur ma vie tout entière, sur le fait que j'ai voulu arrêter les choses alimentaires et puis commencer à pratiquer ce qui nourrit mon âme et me mettre au service. Donc voilà, maintenant ma vie entière est dédiée au service, c'est-à-dire à la croissance spirituelle et de conscience des personnes. Et la deuxième partie de la question, c'est les changements que je peux voir chez les gens qui pratiquent.
Tout à fait, que tu accompagnes hein, principalement.
Oui. Il y a des personnes qui viennent régulièrement, c'est principalement chez celles-là que je vois les changements. Mm-hmm. Parce que si je goûte à une chose et puis je n'y reviens pas, ben, c'est comme avoir un beau jardin et de jamais venir enlever les mauvaises herbes pour voir les belles fleurs. Les belles fleurs sont finalement masquées. Donc... il se passe quelque chose avec le déconditionnement en douceur que je préconise. Les personnes prennent de plus en plus de risques dans mes groupes et vont vers de plus en plus de liberté. Et c'est un processus qui prend environ un an en fonction du degré initial de liberté. Il y a des gens qui commencent avec un degré de liberté petit, très conditionné, très intériorisé. Pour eux, ça peut prendre un peu plus longtemps. Il y a des gens qui sont en tantra avancé dès le premier groupe, y compris des gens très jeunes qui m'ont complètement étonné, parce que c'est des gens qui, soit ils n'ont pas de karma, soit ils arrivent au monde sans aucune peur, et donc ils ont une grande longueur d'avance sur la plupart d'entre nous, qui ont eu des blessures d'enfance et des choses comme ça. Moi, je vois l'espace de liberté grandir, et c'est ça qui est le plus touchant pour moi, l'espace de conscience grandir, et les gens que j'accompagne en thérapie aussi, c'est assez manifeste. Hein. Ce qui est manifeste, c'est le retour de ce qu'ils me disent, des changements qu'ils voient dans leur vie, pour moi, est la conséquence directe de j'arrête de me juger, j'arrête de faire à propos de ce qu'on m'a inculqué comme valeur ou de mon histoire, et puis je fais par rapport à moi.
Hein, par rapport à mes envies, et j'ose les exprimer, et j'ose les vivre pleinement.
Quoi, c'est ça, ouais. Exactement, oui.
C'est amusant, je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand tu as répondu à cette question-là, l'énergie a complètement changé. J'ai senti une montée d'énergie en toi, c'est absolument fabuleux. On sent que ça a résonné, surtout quand tu as parlé de cette période extatique.
Oui, parce que on dit que le cerveau ne fait pas la différence entre quelque chose qui est vécu et quelque chose qui est remémoré. Donc quand je revis intérieurement je me rappelle cette extase, c'est comme si je la revivais, parce que je rappelle toutes les endorphines et tout ce qu'il y avait. Quand je pense à un souvenir joyeux, je suis joyeux. Hein, c'est comme si je le vivais à nouveau.
Je te remercie parce que j'ai pu en bénéficier également, donc c'est parfait.
Oui.
Et peut-être que les gens qui nous écouteront également, donc ce sera d'autant mieux.
Oui, parce que l'énergie passe par les mots, et que ce soit enregistré en audio ou en vidéo ou en face à face, c'est la même chose. Les mots portent une énergie, le verbe est créateur. Notre monde a été créé à partir d'un verbe. et notre monde est sonore avant d'être matériel. Ça, il y a peu de gens qui le savent, mais dans la spiritualité, c'est quelque chose qui revient de plus en plus. Le monde est vibratoire et le monde est sonore aussi. Mais aujourd'hui, le son, on l'emploie pas à sa pleine valeur.
Ok. Merci pour ces précisions. Alors bon, cette question-là, je te la pose, même si je ne sais pas si tu auras une réponse. Et je demande toujours quel est le livre de chevet tantrique. Quel est ton livre de chevet tantrique? Alors, tu m'as dit que tu n'en avais pas lu beaucoup. Alors, est-ce qu'il y en a un quand même qui émerge tu te dirais, voilà, si moi je devais écrire un livre sur le tantra, ce serait celui-là.
En effet, j'en ai pas. Hein, j'en ai pas.
Et c'est ton droit. Hein,
j'ai pu lire deux livres de tantra. J'en ai peut-être lu en anglais un ou deux autres en Inde, quand j'étais en Inde. Plus qu'un livre de chevet, ce que je recommande aux gens qui découvrent le tantra, c'est le livre des secrets. Alors, il n'y a pas le nom au chaud sur la couverture, parce qu'il a plein de noms différents. Ouais. Donc, il y a écrit Bhagwan Sri Rajneesh. Mais c'est au chaud, hein, c'est le même personnage. Parce qu'il est très... il prend par la main, il est très progressif, et puis il est très clair. Et puis, il commente aussi le texte fondateur du tantra, qui est le Vijnana Bhairava Tantra. Donc, il commente les 10 premiers préceptes et ça permet aux gens de se replonger dans l'énergie initiale des préceptes tantriques et de voir d'où vient le tantra et à quel point ces préceptes peuvent être précieux lorsqu'on les pratique et lorsqu'on les comprend, parce qu'ils sont un peu difficiles à comprendre. Comme c'est un auteur très spirituel, il y a des blagues partout, c'est facile à lire, c'est très didactique, hein, et c'est pour ça que je le recommande aux personnes qui découvrent. Alors, il est dans ma bibliothèque, de même que le livre Le Chant Royal de Saraha. Le deuxième, c'est un livre à la couverture noire, Le Chant Royal de Saraha, je crois qu'il n'existe plus. Pour moi, l'univers aussi m'en a fait cadeau au moment où il était encore chez quelqu'un et disponible, parce que il est assez exceptionnel. Hein, il y a des choses sur l'amour et la jalousie qui m'ont marqué, qui m'ont impressionné et qui ont résonné avec une grande justesse. Alors, je suis très intuitif avec ce que dit Osho. Je suis comme, je pourrais dire, un enfant spirituel d'Osho, parce que j'arrive à comprendre le cheminement de sa pensée et puis je suis en adéquation à 100% avec chaque phrase. Donc il y a quelque chose qui est en moi. Hein. Et puis il y a une photo de Shaw là-haut sur ma bibliothèque en bleu. Tu la verras tout à l'heure. Oui. Il y a une soirée où on a dansé sur la pleine lune, comme j'organise régulièrement. J'avais mis un petit laser avec des points qui bougent de partout et certains points qui sont fixes. Et quelqu'un m'a fait remarquer, alors que ce n'était pas du tout volontaire, qu'il y avait un point rouge sur le troisième œil d'Osho sur la photo et au niveau fixe. Et tous les autres points convergeaient vers ce point rouge. J'ai fait une photo parce que je dis Osho est avec nous dans cette soirée. Hein, parce que j'appelle ça le hasard avec un grand H, hein, quand des choses comme ça, ou comme il y a 13h13, 21h21, voilà, synchronicité.
Ok, bah écoute, merci pour ces suggestions de livres. Pour terminer, est-ce que bon, j'imagine que pour la promotion de tes activités, tu dois avoir un ou plusieurs sites internet, est-ce que tu peux peut-être qu'il y a même d'autres moyens,
Oui. Alors, toutes mes activités sont sur le site Être Plus. Donc, êtreplus.fr, c'est un site généraliste. Il y a mes activités et celles des autres. Donc, on peut voir mes activités sur ce site. Et après, il y a une déclinaison du site Être Plus, qui est êtreplus.fr/tantra, qui ne contient que ce que je fais en tantra, respiration, méditation, séance individuelle, célébrer la colère, donc il y a plein de déclinaisons de cette énergie-là. Pour le trouver facilement, il faut taper Tantra espace AVI, AVI et on arrive directement sur la page d'accueil de ce site. Il y a quelque chose que je vais mentionner parce que ça a été très, très riche pour moi. Il y a quelques mois, j'ai participé en été à un grand rassemblement avec 10 000 personnes où toutes les participations aux ateliers et aux restaurants étaient libres et conscientes. Et ça a fait vraiment tilt en moi. Et j'ai commencé à appliquer ça à tous mes stages.
D'accord.
D'abord la méditation active, et ensuite au tantra. Et depuis quelques mois, il n'y a plus aucun tarif fixe dans les stages de tantra ou les soirées de tantra. Pour moi, c'est extrêmement riche et c'est source de plein de bienfaits parce que d'abord, ça permet aux personnes un petit peu démunies d'être dans les groupes, ouais, et de donner en fonction de leurs moyens. Et ça invite les autres à la solidarité, ceux qui ont un peu plus, pour inviter ces personnes à être dans les groupes. Ça m'a permis de régler les tensions que j'avais avec l'argent. Est-ce que je vais arriver à payer mon loyer qui est assez élevé ici? Chaque stage était, est-ce que je vais le remplir, pas le remplir? Pour moi, c'est terminé. Il y a beaucoup plus de stages qui se réalisent, beaucoup moins qui s'annulent. Et avant tout, il y a un équilibre que j'invite et qui se réalise entre le donner et le recevoir. Et au niveau énergétique, c'est beaucoup plus pertinent que le tarif fixe. Avant, je devais faire des tarifs réduits pour compléter la parité. C'est terminé, je n'en fais plus. La plupart des groupes, il y a plus de personnes parce qu'il y a des groupes, des personnes avec moins de moyens qui viennent. Et puis, la plupart des groupes sont aussi équilibrés plus naturellement en parité. Je dirais que pour moi, c'est le signe que ce mode opératoire de ne pas fixer de tarifs est un mode énergétique qui est juste, c'est-à-dire participation libre et consciente. Libre, ça veut dire que j'adapte à mes moyens et je ne vais pas vérifier combien les gens donnent. Consciente, ça veut dire que j'ai à cœur d'équilibrer ce que j'ai reçu avec ce que je donne, tout en l'adaptant avec mes ressources. Et je dois dire que ça fait des miracles. Pour la méditation active, j'ai plus d'argent qu'avec le tarif fixe à chaque séance. Et puis, je maintiens beaucoup plus de groupes. Et donc, financièrement, je m'y retrouve beaucoup mieux. C'était un sacré défi et un sacré enjeu pour moi que de pacifier cette relation à l'argent par ce moyen-là. Et je crois que cette expérience de... ça s'appelait le souffle du rêve, l'événement avec 10 000 personnes où j'étais. C'était pas un hasard non plus que j'ai participé à ça. Ça enraciner une petite graine en moi que c'est ce moyen-là qu'on va utiliser prochainement sur Terre. Ça va être des échanges énergétiques plus que des échanges financiers. On va donner et recevoir en équilibre. Aujourd'hui, ça passe encore par le moyen de l'argent, mais c'est libre. J'ai à cœur de détendre. Et puis, en dernier... il y a des aspects positifs de l'argent et il y a des aspects négatifs, parce que l'argent est une énergie neutre. Les aspects négatifs, c'est avec l'argent, on peut prendre le pouvoir, avec l'argent, on peut contacter l'avidité, on peut contacter le manque, il y a des choses comme ça. J'étais aussi un peu dedans. Mais avec l'argent, on peut aussi contacter l'abondance, on peut aussi contacter... la générosité, la solidarité, voilà. Et j'oppose ces qualités-là à ces énergies qui sont beaucoup plus resserrées avec l'argent dans mon nouveau mode opératoire. Ça vise à pacifier nos relations avec l'argent, aussi bien ceux qui donnent que pour moi qui reçoit. Donc c'est important, c'est peut-être la raison pour laquelle je me sens bien mieux avec ce, même si c'est l'inconnu total. Quand la boîte est là, pleine de billets, et que je dois compter, Il y a plein d'adrénaline chez moi. Je suis tout excité parce que je ne sais pas combien il y a dans la boîte. Et c'est vraiment génial. Et c'est un cadeau à chaque fois. Peu importe combien il y a, en fait. C'est le lâcher prise, en fait, cet aspect mental de combien je vais gagner. Hein. Ça n'a plus autant d'importance.
Bon, écoute, je te propose de finir sur cette belle note. Je te remercie pour cette interview et pour m'avoir accueilli dans ton lieu. Et puis voilà, l'interview se finit là, maintenant, tout de suite.
Oui, avec plaisir et pour toujours plus de croissance et de conscience dans tous les domaines de la vie.
Merci.